Jardin des anémones par Binet Balmer. Le petit bruit de la mer sur la plage rejoignait le soupir nombreux de toute la nature enfin réveillée après le sommeil de midi, et cette femme qui m'accompagnait mit sa voix en accord avec le murmure des choses, des plantes et des êtres. Mon jardin, autrefois. Or, c'était aussi mon jardin, puisque je l'avais aimé avant qu'elle l'aimât, puisque je l'avais perdu avant qu'elle le perdît. Nous faisions pèlerinage. Par une ironie du capricieux destin, elle et moi, qui nous étions rencontrés à Saint-Raphaël, et qui étions devenus des amis comme on devient amis sur la côte provençale ou la côte ligurienne, avions vécu quelques années de notre vie, à des époques différentes, dans cette villa bien modeste, dont toutes les fenêtres regardaient la Méditerranée. Mais oui, toutes, les unes contemplant le large, les autres dominant les calanques par lesquelles était enchâssé le promontoire. Sur celui-ci descendait une route en lacets. Dans l'un des lacets était enfermé notre jardin limité par une falaise aux rochers broussailleux. De ce côté-là s'élevaient des pins maritimes, ces professeurs d'énergie que le mistral et les tempêtes n'ont pu vaincre et dont les branches tordues et les vertes aiguilles semblent se réjouir sous la lourde ardeur du soleil. Elles ont des ennemis plus cruels et qu'elles ne peuvent vaincre. Les voici. Oh, regardez, dit mon ami en s'arrêtant sur l'allée que barrait la ligne onduleuse des chenilles processionnaires. Et elle ajouta, rien n'est changé. Rien n'était changé. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent bien ordonner de détruire sur les pins ces lourds sacs laineux où se prépare la procession des chenilles voraces. Ces affreuses bêtes qui vivent en société paraissent indestructibles. Et toujours elles émigrent d'un arbre à un autre, chacune reniflant la partie postérieure de sa voisine, ne se quittant pas, obéissant à l'ordre d'un chef que nous ne connaissons point. Mais nous vîmes accourir un petit homme en manches de chemise, les manches de la chemise retroussées jusqu'au coude, un petit homme rapide, agile et sec. Il portait deux arrosoirs. Chacun était rempli d'une eau presque bouillante, et cette eau qui fumait, il la répandit sur l'immonde procession. « Bravo, Louis !» lui dis-je. C'était le vieux jardinier de la villa. Il me reconnut et du même coup reconnut la femme ravissante que j'escortais. « Ah, par exemple, s'écria-t-il, en voilà une rencontre !» Lâchant les arrosoirs, il s'essuya le front. Dans ses yeux passèrent des images. Louis, c'est un poète, et peut-être le plus grand poète que j'ai connu car il est jaloux de la poésie qu'il possède en lui-même. Il ne songe point à la faire partager à qui l'approche. Pas même à sa grosse femme, dont le métier est d'envoyer des paniers de fleurs aux gens des villes, pas même à ses enfants qui font leur chemin dans les villes. Il nourrit par son travail la femme et les enfants, mais son plaisir, il le garde pour lui. Et quel plaisir subtil! Louis joue avec les fleurs. Il les protège, bien sûr. Il fait mieux. Il les aide dans leurs amours. Et ces amours-là, il les complique. Toujours le même, Louis, dit mon ami. « Je vois sortir de la poche de votre chemise les petits tubes de verre qui vous servent à transporter le pollen. »« Eh oui, madame, je continue et j'obtiens des résultats. » »« Étrange résultat. » Louis est pareil à un bourdon. Il entr'ouvre une corolle, la secoue, et il s'en va porter à une autre fleur la poussière dorée. Il crée l'adultère des roses, des lys, voire des anémones. Mais avec celle-ci, que de mécomptes. Ensuite, il guette le gonflement du calice, attend son éclatement, recueille la graine, la sème, traverse des heures d'angoisse, jusqu'au moment où le fils naturel de la liaison qu'il a créée germe, se dresse, fleurit à son tour, et d'une fleur qui ne ressemble pas à la fleur paternelle, qui est une nouveauté, qui est la fille de son génie. Alors, ça va toujours, madame, et vous, monsieur? On vous regrette, l'un et l'autre. Ceux qui vous ont remplacé ne sont pas des mauvais maîtres, mais ils viennent à la villa pour faire la noce et jouer à Nice ou à Monte Carlo. Le jardin ne les intéresse pas. Notre jardin. J'ai pris le bras de mon ami. Entre elle et moi, il n'y avait que ce trait d'union, le jardin. Et la volière? Demanda-t-elle à Louis. Il n'y a plus de volière, madame. Les gardiens y ont mis des poules, voyez plutôt. Louis nous conduisit sur l'allée vers le mur qui soutenait la route. Entre ce mur et nous, il y avait un parterre d'anémones. Au-dessus de nous, dans un étroit vallon, des mandariniers. Plus loin, l'étendue d'un champ de violettes. Là-bas, des citronniers, un héliotrope géant. C'était une corbeille de parfums. Naguère, dans la volière, les petits oiseaux d'Australie mêlaient la symphonie de leurs couleurs à la symphonie des parfums. Aujourd'hui, les poules caquetaient, le coq les châtiait en gloussant. Quand il nous aperçut, il se dressa sur ses ergots et nous défia en poussant son horrible cri de mari vainqueur. « Notre jardin !» répéta à demi-voix ma jolie amie qui serra mon bras contre sa poitrine un peu soulevée. Puis elle se tourna, délaissant la volière profanée, vers le parterre des anémones. « Je vous dirai, merci Louis, laissez-nous, retournez à vos amours. Avant de partir, nous nous reverrons. Je vous dirai, mon ami, une histoire. Ce qui m'est advenu ici, oh, ce ne sera pas long. Pourquoi vous renvoyez Louis? Il aime les histoires. Il a été mêlé à celle-ci, et il ne l'a pas comprise. J'étais fiancé quand mes parents ont loué cette villa. Vous voyez cette belle anémone aux pétales blancs, au cœur mauve, à la haute tige qui se penche un peu. C'est une orgueilleuse, bien qu'elle se penche. C'est une orgueilleuse qui n'aime pas être mélangée à ses compagnes multicolores. Elle n'était pas aussi épanouie, celle que nous avons caressée, mon fiancé et moi, et que notre premier baiser a effleurée. Un premier baiser sur une fleur, est-ce assez romantique? Ce fut ainsi, et nous avons cueilli cette anémone qui semblait en exil. Nous l'avons emportée dans la villa, nous l'avons placée dans un vase en verre de Venise. Elle s'est redressée, elle est devenue d'une beauté que nous jugeons sublime. Elle est devenue le symbole de notre amour. Quand elle a commencé de vieillir, notre amour était encore jeune. Quand elle est morte, notre amour était encore vivant. Toutes les anémones étaient mortes. Le cher Louis, votre poète, commençait de rechercher dans la terre ce qu'il nommait les pattes d'anémone, afin de les nettoyer de leurs racines, de les mettre à l'abri jusqu'au jour où elles ressusciteraient. Et nous, comme des gosses amoureux que nous étions, nous lui avons demandé de nous donner la patte de notre blanche anémone, pour que l'anémone fût avec nous quand elle ressusciterait. Louis nous a apporté une vilaine petite chose qui avait l'air d'un morceau de glaise, d'un caillou assez malpropre, et il nous a affirmé que de cette glaise, de ce caillou, renaîtrait la longue tige de notre confidente. On est bête quand on aime. J'ai emporté la patte d'anémone, je l'ai soignée comme il fallait. Je disais à mon mari, quel mystère! Est-ce que tu comprends comment peut renaître de cela la fleur de notre premier baiser? Il ne comprenait pas, et pour cause, il ne m'aimait plus. Tout le monde sait que notre ménage n'a pas duré une année. Ma fidélité a duré plus longtemps. Dans un puéril espoir, j'ai mis dans la terre d'un autre jardin la patte d'anémone. Elle s'est reprise à vivre. De ce petit caillou est née une longue tige. La tige a porté une fleur qui s'est épanouie. Hélas, c'était une fleur différente, aux pétales rouges et au cœur noir. Épouse abandonnée, je suis revenu ici, près de mes parents, et j'ai dit à Louis, « Vous vous êtes trompé. » Il m'a répondu, devant le parterre bigarré où nous sommes, « Que voulez-vous, madame? Toutes les pattes d'anémone se ressemblent. J'ai pu me tromper. On ne sait jamais ce qui va germer. » Et il a conclu, votre ami le poète, « Ce mystère-là, il n'y a pas de savant pour l'éclaircir. Un rhizome, un oignon, un bulbe, une patte d'anémone, toutes ces choses mortes contiennent une fleur. Bien malin qui dira, en les soupesant, ce que sera la fleur. Mon histoire est stupide, ne trouvez-vous pas? Voyez cette anémone qui se penche, ai-je répondu. Et nous avons commencé une autre histoire, sans savoir comment, après l'été et l'automne, après l'hiver, elle refleurirait. C'était Jardin des anémones par Binet Valmer.